Qu'est-ce qu'on entend par intégration? La question se pose puisqu'hier a été présentée par le gouvernement comme un contrepoint humaniste à sa politique d'immigration, une feuille de route pour l'intégration des étrangers arrivant en France. Autant dire que cette question et ce mot d'intégration reviennent en force dans le débat public avec en tête de gondole ce contrat d'intégration républicaine CIR qui favorise entre autres l'accès au travail, qui double les heures de cours de français et de formation civique. L'intégration, c'est intéressant parce que on veut toujours la relier aux questions d'immigration, à l'étranger qui arrive en France. Ce qui suppose que celui qui est français est a priori intégré. Supposition pour le moins excluante, je pense à ce texte d'Alain Touraine, qui a beaucoup pensé la notion d'intégration justement et qui rappelle au début des années 90 que la coupure en France entre le dedans et le dehors devient de plus en plus profonde. C'est un fossé que l'on saute de plus en plus difficilement. Il écrit « La société libérale porte en soi le ghetto. Nous étions une société de discrimination, nous devenons une société de ségrégation. » Et ça c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui plus que jamais. Quel est le contraire de l'intégration, la discrimination, l'exclusion, la ségrégation, la désintégration.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang qu'évoque à mon invité d'aujourd'hui ce mot d'intégration. Lui qui est cinéaste et qui depuis plus de 25 ans filme avec humanité, justesse, intensité des personnages qui peinent à trouver leur place dans la société française. Il y a 2 ans, son triomphe au César avec Fatima, meilleur film, meilleur espoir féminin, meilleure adaptation, nous invitait à redécouvrir l'ensemble d'une œuvre à laquelle le Festival International du Film de La Rochelle rendra hommage à partir du 29 juin. Bonjour Philippe Faucon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez peut-être derrière ce mot intégration que votre cinéma semble depuis toujours interroger?
Eh bien, moi justement, je suis descendant de gens qui au départ n'étaient pas des Français, qui sont venus en France, qui ne parlaient pas français, qui se sont retrouvés à la marge de la société française et dans cette situation de d'invisibilité qui en effet est celle de a été celle d'un personnage comme Fatima. Donc voilà, c'est quelque chose que je que j'ai vécu moi-même. J'avais une grand-mère à qui je m'adressais en français, qui me répondait en espagnol, qui était dans que je sentais dans un décalage par rapport à la société dans laquelle elle avait recommencé sa vie, et donc voilà, dans son regard il y avait souvent je percevais souvent ça, cette espèce de façon d'être présente et en même temps de ne pas l'être. Je sentais ça dans beaucoup de choses, d'attitude, de silence de mes grands-parents, et c'est ce qui fait que sans doute voilà, je suis c'est quelque chose qui est revenu dans mes films.
C'est intéressant que vous parliez de la langue et que vous utilisiez ce prisme. Je rappelle que Fatima, c'est l'histoire d'une séparation par la langue entre une mère qui ne parle qu'arabe et ses filles qui parlent français. Ce motif, j'ai l'impression qu'il est partout dans votre cinéma. Quand est-ce que la langue a commencé à vous interroger, justement?
Justement, parce que à partir du moment où je me suis rendu compte que la langue, c'est ce qui constitue un individu, c'est ce qui constitue son expression,
c'est aussi ce
son
qui
rapport.
Sépare.
C'est oui, ce qui sépare quand justement ça entrave son rapport à l'autre, à la société dans laquelle on vit, et puis aussi à des enfants qui sont nés dans une société dont on n'a pas tous les codes, et donc voilà, je dans Fatima en particulier, c'est très au centre de ce qui se passe entre les personnages de cette mère et de ses filles. La langue constitue en effet une séparation qui s'est installée, et le personnage de Fatima justement dans le film va se retrouver à écrire dans un cahier les choses qu'elle ne parvient plus à dire, à communiquer avec ses filles et à échanger avec ses filles qui elle ne possède pas, ne maîtrise pas la langue qui est la sienne, l'arabe.
Puisqu'on parle de langue, Philippe Faucon, je pense à un autre de vos films qui s'appelle La Désintégration et qui racontait la radicalisation de jeunes vivant dans une cité à Lille. Comment vous l'entendiez ce titre à l'époque, La Désintégration? Qu'est-ce que vous aviez l'impression de voir se désintégrer?
Alors, effectivement, le film est né à partir de ce sentiment, de quelque chose qui était une désagrégation à la fois d'un personnage et puis d'une situation, d'un état de société. Mais quand on a tourné le film, le film ne s'appelait pas encore comme ça. Le titre est venu tout à fait à la fin, mais il a sans doute rejoint quelque chose qui était porté par le film et qu'on n'avait pas formulé et exprimé auparavant de cette façon, mais qui s'est tout d'un coup, qui nous a paru effectivement évident quand quelqu'un a évoqué ce mot, ce titre. C'est-à-dire que il y a le titre à plusieurs sens. Il y a il parle du contraire du justement de cette notion d'intégration, et puis aussi il parle de la désintégration de ce personnage qui justement a le parcours qu'il a par ce sentiment de ne pas appartenir, de ne pas faire partie de la société dans laquelle il est né et dans laquelle il a grandi.
Qu'est-ce qui mène à la désintégration en réalité, Philippe Faucon? C'est le sentiment d'humiliation aussi?
C'est le sentiment de ne pas faire partie d'une société dans laquelle on est en principe... On pense soit être complètement partie prenante parce qu'on y est né, qu'on y a toujours vécu, et constamment on se retrouve confronté à des regards, à des situations qui renvoient le fait que non, on n'en fait pas complètement partie, on est regardé différemment, on se heurte toujours à quelque chose qui vous enferme dans quelque chose dont on a le sentiment que ça ne nous correspond pas, ça ne correspond pas.
Et ce qui est fou, c'est que quelque part vous avez vu et montré ce que personne ne voulait voir, et ce avant toutes les tragédies qui ont suivi, de l'affaire Mohamed Merah aux attentats qui nous frappent encore aujourd'hui. Comment le film avait été reçu à l'époque?
À l'époque, c'est un film qui a été très compliqué à faire à l'époque, parce que il a été tourné en 2010. On a commencé à le penser à partir, je pense, de 2008. Il est sorti en 2012, en février 2012, justement un mois avant que n'éclate l'affaire Merah. Et donc à ce moment-là, en effet, c'est un film qui a suscité des polémiques dans toutes les commissions où il a été proposé. C'est un sujet qui faisait peur. On nous disait mais non, c'est du fantasme. Et nous, on avait je pense qu'on a eu le sentiment à ce moment-là que il y avait quelque chose qu'on avait l'impression de percevoir, qui était déjà là, qui était déjà présent, mais qui suscitait un énorme déni à ce moment-là, qui est tout à fait compréhensible, hein, parce que il y avait le désir de ne pas stigmatiser, caricaturer, mais je pense qu'avec les producteurs on a entrepris ce film parce que on avait l'impression que quelque chose était là, qu'on sentait, mais que d'une façon générale, même les gens qui, comme nous, étaient très en contact avec ces réalités, on ne voulait pas voir.
Est-ce que Fatima, qui est un film porteur d'espoir, c'est une réponse à la désintégration et à tous les événements qui ont suivi?
Sans doute, d'une certaine façon. Fatima, c'est un film dont j'avais le projet avant la désintégration, avant le tournage de la désintégration. C'est-à-dire que j'ai rencontré l'auteur du livre alors que j'étais en préparation de la désintégration, et j'ai rencontré l'auteur du livre justement parce que j'ai eu l'idée de lui faire jouer le personnage de la mère dans la désintégration. Et ça ne s'est pas fait parce qu'elle était à ce moment-là dans un moment qui lui permettait pas ça. Et puis je me suis intéressé à elle et à ce qu'elle avait écrit, et j'y suis revenu après avoir tourné le film, et il y avait évidemment, sans doute consciemment ou inconsciemment, le fait d'apporter un contrepoint au film précédent. Quand le film est sorti, j'ai souvent utilisé cette image. Je crois qu'elle me vient d'elle d'ailleurs, qui est un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc voilà, en effet, la désintégration, ça racontait l'histoire de l'arbre qui tombait, et Fatima et d'autres racontent l'histoire de la forêt qui pousse.
La forêt qui pousse, qu'est-ce qui vous donne espoir, à vous, Philippe Faucon ?
Eh bien, je crois que mon histoire personnel me donne espoir, parce que je me rends compte que les immigrations qui ont précédé, celles qui ont été celles de mes grands-parents ou d'autres, on l'a oublié aujourd'hui, mais elles ont été l'objet des mêmes méfiances, des mêmes a priori, des mêmes rejets, des mêmes, et quelquefois elles ont eu à se confronter à des situations de violence, et puis les choses, parce que c'est le mouvement de la vie, les choses ont fait que les premières générations ont été suivies d'autres qui ont pris place dans la société française, et je crois que c'est le mouvement qui est le plus fort.
Celle qui nous intègre dans cette émission, sans doute, la connaissez-vous, Philippe, c'est la culture et son actualité aussi désespérée que désespérante parfois, mais on l'aime quand même. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 6 juin?
J'ai du reste pu découvrir certains graffitis très anciens dans les grottes des Comtes de Lauvignan.
Droit dans le mur, c'est aujourd'hui que s'ouvre la belle expo Histoire de graffiti au château de Vincennes, des grottes préhistoriques aux façades de nos rues, en passant par les cachots du château. L'événement propose de réfléchir à l'histoire, au sens et à la définition de la pratique de l'écriture murale. Alors jusqu'en novembre, on fait le mur et on voyage dans le temps et la création. Allons!
Tu avais beau faire et beau dire, sur tes pas où tu vas, je veux être ce bruit que fait le feu, cet écho qui semble un aveu, lavé du vent dans tes cheveux.
Augeret quitte la scène, chanteur engagé, interprète des poèmes d'Aragon. Marc Augeret est mort lundi, il avait 86 ans, issu des cabarets de la Rive Gauche et compagnon de Brassens et Ferré. Le chansonnier mettait en musique les mots d'Aragon, donc, mais aussi de Jean Genet, Pierre Segers et Aristide Bruand, grand interprète des chants révolutionnaires français. Il sera inhumé avec un œillet rouge, symbole du Paris révolutionnaire. Ciao, compagnon.
Des héros adolescents, il y en a eu dans toute la littérature mondiale, mais jusqu'à Salinger, ils avaient toujours un narrateur.
De Montpion leur a damé le pion. Le journaliste Denis De Montpion s'est imposé hier face à ses quatre concurrents dans la course au Goncourt de la biographie. C'est grâce à son ouvrage sur la jeunesse de Salinger qu'il a charmé les jurés de l'honorable Académie. Il évoque notamment les liaisons de jeunesse de l'auteur de La Trappe-cœur, son engagement dans la Seconde Guerre mondiale et sa retraite dans le New Hampshire. À la bonne heure. Et mercredi d'intégration, séance à profusion, car aujourd'hui dans les salles, on dit oui au dino de Jurassic World Fallen Kingdom, signé Juan Antonio Bayona. On reste sage devant les trois visages, le nouveau film de Jafar Panahi récompensé du prix du scénario à Cannes. On est volontaire pour la comédie martiale d'Hélène Filière. Et sinon, on se laisse envoûter par Riga Take One, la belle proposition de Siegfried, avec une BO aux petits oignons, signée Thomas Bangalter. Et le cinéaste Philippe Faucon, invité de Boomerang ce matin pour l'hommage qui lui sera rendu au Festival international du film de La Rochelle à la fin du mois, et puis la sortie de ce DVD, d'une anthologie assez exhaustive de votre œuvre, Philippe. Et ce qui fait le point commun de presque tous vos films, c'est aussi la famille. En quoi est-ce que la famille, c'est un réservoir d'histoire, de récits pour vous?
Parce que la famille, c'est le premier endroit où l'on doit affirmer qui l'on est, quelquefois se confronter au refus d'admettre qui l'on est, et c'est la situation de beaucoup de mes personnages. Donc, en effet, la famille, c'est un premier lieu de d'affirmation de soi-même et de prise de place dans la vie et dans le monde.
Vous avez grandi dans une famille dans laquelle il y a eu beaucoup de conflits, vous?
Pas forcément. Au sein même, si, bien sûr que c'était présent comme dans beaucoup d'autres, mais c'était une famille qui a été justement confrontée à ça, au fait de devoir affirmer que elle était là, que elle avait place dans la société dans laquelle elle se trouvait, et donc voilà, c'était.
Je vous pose la question, Philippe Faucon, parce qu'évidemment, la famille, c'est souvent chez vous le lieu de conflit, entre frères et sœurs, mais aussi entre parents et enfants, conflit de génération. Souvent, en quoi votre génération s'est-elle opposée à celle de vos parents?
Sur tout un tas de choses qui n'étaient pas comprises, mais ça c'est un procédé qui se répète continuellement. Je pense que la famille, c'est le lieu où souvent de malentendus, dans les deux sens d'ailleurs, les parents voudraient que les enfants correspondent à une image que eux se font de leurs enfants, qui n'est pas toujours juste, et l'inverse quelquefois aussi. Donc voilà, c'est le lieu de la dissipation de tout un tas de choses de cet ordre-là.
Allez, relève-toi à toi.
Putain, aussi, dégage.
Oui, c'est ça.
Mais fais pas chier, putain. Arrête. Pauvre Thomas. De toute façon, c'est à cause de toi tout ce qui se passe. T'es tout le temps en train de t'écraser devant elle. Comme un con, là.
Oui, je suis con et toi, tu t'arrêtes. Hein?
Quand je vous ai demandé, Philippe Faucon, de choisir un extrait de l'un de vos films, vous avez choisi cette scène d'un téléfilm qui s'appelle « Mes 17 ans », réalisé il y a 22 ans. Pourquoi ce film? Pourquoi cette scène?
Alors, parce que c'est une scène très très forte de confrontation entre la mère et la fille. C'est une scène qui n'était pas évidente à réaliser. C'était une scène importante dans le scénario, mais qui n'était pas évidente à réaliser parce que il y a de la violence, il y avait une difficulté, voire une impossibilité à doubler les comédiennes par des cascadeuses, puisque l'une des interprètes a 15 ou 16 ans, ou 17 ans, comme le titre le dit, mais en réalité elle était plus jeune. Et voilà. Et donc, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé avec elle, et puis on a cherché comment faire, et puis on trouvait pas. Et au bout d'un moment, toutes les deux ont dit, Brigitte Rouen, qui joue la mère, et Valentine qui joue la fille, on dit on va le faire, on va essayer de le faire, mais évidemment on ne fait que deux ou trois prises, et si on n'y arrive pas, On ne s'obstine pas parce que ça va commencer à devenir compliqué. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'effectivement, on savait qu'on aurait la possibilité de ne faire que deux prises. Moi, j'avais décidé d'arrêter. Donc, je commençais déjà à réfléchir à comment remplacer cette scène par quelque chose d'autre si on n'avait pas la séquence. Et on a fait deux prises et les choses sont venues tout de suite.
Ça veut dire qu'il faut se laisser surprendre?
Ça veut dire que le cinéma, c'est quelquefois une part de dans le cinéma, par définition, il y a une part de risque, mais ça veut dire que voilà, quelque chose, quelquefois les choses se passent comme ça, à un très haut niveau de risque. On sait pas comment elles vont quel résultat ça va avoir, d'autant plus que là le plan était assez compliqué. Alors ça n'apparaît pas dans l'extrait sonore qu'on a vu, mais le plan était assez compliqué parce qu'il partait de la chambre de la jeune fille. Elles passaient toutes les deux en se battant sur la terrasse, et donc il y avait un mouvement de caméra qui n'était pas simple, qui a été fait à l'épaule, et on avait décidé qu'on n'irait pas plus loin que deux prises à la fois parce que le jeu était violent, intense, et donc il n'y avait pas de troisième chance pour le chef opérateur, et il a réussi un mouvement superbe. Le film a été montré dans des festivals où des tas de gens, des cinéastes iraniens, russes, m'ont demandé comment le plan avait été tourné, et en fait il est simplement tourné à l'épaule, mais il est assez incroyable, le plan, parce que en effet, dans un mouvement très brutal, il arrive à passer d'un visage à l'autre, puis à recadrer les deux personnages en même temps. Et voilà, il y a, je pense que c'est une prise que si on avait fait 10 prises, de toute façon, il l'aurait peut-être pas réussi 10 fois. Il y a une part de quelque chose qui se passe. C'est ça qui est très, très fort et très beau dans le cinéma, c'est quand se rejoignent comme ça sur une même, dans une même ligne de mire, la participation de tout un tas de gens, à la fois des choses qui ont une exigence et un engagement technique, une précision technique, il faut assurer une prise de son, de cadre, etc. Et puis en même temps, du jeu qui quelquefois n'est pas simple, qu'on ne peut pas reproduire 10 fois.
Puis de l'accident.
Et puis de l'accident. Et là, tout ça s'est rencontré sur dans quelque chose d'assez fort.
Alors on va y revenir. Évidemment, Philippe Faucon. Mais on embarque d'abord avec Crosby, Stills, Nash & Young à bord du Marrakech Express en 1969. Vous êtes sur France Inter. Avec vous donc, Philippe Faucon. Et on écoute Boomerang. Looking at the world through the sunset in your eyes, traveling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call, animal carpet wall to wall, American ladies 5 foot tall and blue. Sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that fly ahead bring us back to where they've led. Listen up to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? You know we're riding on the Marrakesh Express. They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my mouth. Gold cups hang in the air. Charming cobras in the square. Stripes your leathers we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board the train. All on board the train. All on board.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Oui, alors, il a beau s'appeler Faucon, n'allez pas non plus croire qu'on soit au Puy du Fou, d'autant qu'on est moins du côté du rapace que celui de l'ours en peluche extra doux. Regardez-le un petit peu timide, sous ses lunettes rectangulaires, un air débonnaire, un sourire dans lequel se loge aussi un petit soupçon de friponnerie avec sa chemise noire et ses lunettes de soleil attachées à sa chemise. Ça lui fait deux paires de lunettes, le cinéaste Philippe Faucon, invité de Boomerang. Donc, et ce que je trouve intéressant, c'est que vous êtes un cinéaste qui s'est d'abord intéressé au livre. Vous l'avez un peu dit, d'ailleurs, de vos films sont des adaptations. Vous avez fait des études de lettres. Pourquoi pas tout de suite des études de cinéma ?
J'ai fait des études de lettres en même temps que des études de cinéma. Ah. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, et en particulier du milieu dont je venais, l'idée d'aller vers le cinéma n'était pas forcément aussi immédiate, aussi évidente. C'est-à-dire, quand j'étais au lycée, je pense que j'ai d'abord dû avoir une rencontre avec les livres, la littérature, enfin dans l'idée d'études. Mmh. J'allais voir des films, évidemment, mais on n'avait pas la même possibilité qu'aujourd'hui de voir des films. Il n'y avait pas le DVD, il n'y avait pas toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui. Donc, et puis, ça paraissait quelque chose d'un peu inaccessible, d'un peu. Et je me suis inscrit en lettres, et en lettres, je me suis rendu compte qu'il y avait un enseignement du cinéma. Et là, c'était quelque chose de fabuleux, puisque effectivement, c'était un enseignement à l'époque surtout théorique et surtout d'histoire du cinéma, mais c'était la possibilité tout d'un coup d'avoir accès à des choses auxquelles j'avais pas eu accès jusque-là.
Mais l'amour du cinéma, il vient d'où? De quel film?
En fait, je me suis rendu compte que c'est une fascination très très ancienne. Je me rappelle que très petit, j'ai été emmené voir des premiers films par mes parents, et dès ce moment-là, ce sont des souvenirs qui ont été très marquants, dont j'ai encore qui sont encore très présents.
C'était quel film, vous vous souvenez?
Oui, je me rappelle très bien que un des tout premiers films que j'ai vu, ça devait être Blanche-Neige de Walt Disney. J'étais au premier rang, puisqu'on était entré très en retard, c'était des très grandes salles à l'époque, et tout d'un coup, je vais avoir, je sais pas, 4 ou 5 ans, et tout d'un coup, en effet, le fait de quelque chose que j'ai ressenti comme un spectacle très très prenant par tout un tas de dimensions, l'écran, les personnages, la musique, ça a été très marquant à ce moment-là.
Et comment votre désir de devenir cinéaste a-t-il été reçu? Vous qui venez d'une famille de militaires,
oui,
il faut le rappeler.
Je l'ai pas dit tout de suite. Il y avait quelque chose qui était bien par rapport à un désir qui n'a pas été compris, dont je savais qu'il ne serait pas compris, pas souhaité, etc. C'est que mes parents étaient loin. Mon père était militaire, donc il est reparti. Moi, je suis resté seul en France, à Aix, où j'ai fait des études, et c'est là que j'ai tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire.
Quel rapport est-ce que vous entretenez à l'autorité, vous, Philippe Faucon?
Un rapport de on fait deux.
Mais de défiance, ouais.
On est deux, l'autorité et moi.
C'est intéressant au regard de votre cinéma, parce que l'autorité, bon nombre de vos personnages s'en méfient. Elle est pesante, l'autorité. Elle est parfois vécue comme une prison, j'ai l'impression.
Oui, c'est vrai. En tout cas, elle est refusée, rejetée, parce que souvent elle est en contradiction avec la compréhension de ce à quoi les personnages aspirent. Oui.
Faire du cinéma, c'est un acte de rébellion pour vous?
Oui, oui.
Encore aujourd'hui?
Oui, je crois. D'ailleurs. Tous les films que j'ai faits jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été simples à faire. Mais ce sont des films et une conception du cinéma qui était celle qui fondait quelque chose de très, très important pour moi.
Merci infiniment, Philippe Faucon.
Merci
d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle qu'une formidable anthologie de presque tous vos films vient de sortir, que votre série Fierté, aussi réalisée pour Arte, est disponible et que vous serez mis à l'honneur à partir du 29 juin au Festival International du Film de La Rochelle. Votre prochain, qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs cette année à Cannes, sortira début octobre en salle. Il s'appelle Amine et quelque chose me dit qu'on en reparlera. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Je colonise ton sein pas à pas, je domine le reste. Tout ça m'appartient en deux deux et en un seul geste. Tu seras le mien, tu verras, je serai ta secte. Je t'érigerai exactement tout comme je le souhaite. Je marquerai ton bout de mes visques suçons, pour pas que tu cours vers d'autres vices cochons. Je tâcherai ta moue et un à un de tes cheveux longs, de mon drapeau rouge et de mes imposants jurons. Tu ne seras que fier quand alors tu joueras les mères, lorsque je t'offrirai soudain tout un tas de joyeux gamins. Tu n'auras qu'à faire à l'heure et surtout bien te taire. Tu auras alors à terme une grande envolée de bons points. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, de tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, de tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. J'épuiserai ta flamme pour remplir mes mains du nerf de la guerre et comme un grand malin. Moi je jouerai aux dames, moi je ferai conquête, sans trop que je tarde, juste un poil malhonnête. Tu seras sans fringue et bien à ma guise. Je t'habillerai de rien, juste de poignes possessives. Ils le verront bien que la terre est déjà prise. Ils verront mon flingue, oui mieux que ma main mise. Me chargerai aussi que tu n'aies plus de choix. T'étaleras ainsi tout un tas de lois que tu repasseras sans te commander, car il n'y a que toi qui sais bien les plier. Puis je te caresserai comme pour t'apaiser, t'imposerai des chutes pour pas te révolter, te bloquerai la nuque sans que tu révulses, et je serai doux pute. Je serai fou. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y bouffer du bitume. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil. La cité des mâles veille sur le quartier des lunes. Elles veulent y faire leur place et doivent y laisser quelques plumes. De peine, de veine, tenace, elles brillent d'audace. Sans flamme, un flemme qui brûle si belle, bien plus qu'au soleil.